nous sommes un en Jésus. Et ça, c'est accompli, c'est une réalité. C'est déjà accompli, cette unité-là. On est tous des enfants de Dieu. Est-ce que l'année prochaine, vous êtes encore plus enfants de Dieu? Non? Hein? On est enfants de Dieu ou on ne l'est pas. Alors, on est tous enfants de Dieu. On a tous été baptisés, c'est-à-dire renoncés à notre ancienne vie. On a été ensevelis, morts et tout ça. On reçoit une nouvelle vie qu'on veut vivre avec le Seigneur. On revêt Jésus-Christ, notre nouvel habit. Ce qui fait qu'il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Plus de question de race, plus de question de sexe, plus de question d'âge. On est un en Jésus. Hein? Présentement. Amen. Hein? Et ça, c'était la prière de Jésus aussi. Son dernier message. Message, la prière ultime de Jésus. Qu'est-ce que je dirais à quelqu'un, c'est la dernière fois que je leur parle? Hein? Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croit que tu m'as envoyé, afin qu'ils soient un comme nous sommes un. Est-ce qu'on a une idée de l'unité qu'il y a entre Jésus et son Père? C'est proche, hein? Quelle est la prière, le désir de Jésus? Que nous soyons un avec lui comme lui il est avec son Père. Dieu, il veut avoir cette communion, Dieu veut avoir cette unité avec nous, afin qu'il soit parfaitement un. Un jour, on va vivre cette unité-là à la perfection. On a vu la prière de Paul aussi. Hein? Mettez le comble à ma joie en étant unis ensemble, d'un même cœur. On est fait l'un pour l'autre, frères et sœurs. On est fait l'un pour l'autre. Le Seigneur est allé vous chercher aux extrémités de la terre, puis il vous a amené ici. Est-ce qu'il y a un designer derrière ça? Est-ce qu'il y a un architecte derrière ça? Un constructeur qui est allé prendre chacun des matériaux là où ils sont, puis les amener ici? Comment ça se fait, vous êtes ici? Comment ça se fait, je suis là? Hein? C'est le hasard? Non. Dieu t'a choisi, toi, et t'a placé ici, dans cette église, ce matin. Et Paul nous met en garde. C'est quoi l'ennemi numéro un de l'unité? C'est quoi l'ennemi numéro un de l'unité? L'orgueil. Hein? Le moi. Chercher mes intérêts avant ceux des autres. Hein? M'élever au-dessus des autres. Alors, Paul dit, si on veut être unis, là, laissons tomber l'orgueil, la jalousie, l'envie, toutes ces choses-là qui ne sont pas de Dieu, mais chercher plutôt l'intérêt commun, l'intérêt de tout le monde. Et quelle est l'arme numéro un pour unir l'Église, pour s'unir les uns avec les autres? C'est quoi l'arme numéro un? L'humilité. Hein? L'humilité, le respect mutuel. On se respecte, on se considère, il y a de la considération les uns pour les autres. Chercher l'intérêt des autres. Alors, on a cet esprit-là, ça c'est l'esprit de Dieu, l'esprit d'unité. Vivons cette chose-là. D'accord? Est-ce qu'il y a des contres? Non? Adopter à l'unanimité? C'est bon. OK, on va briser la glace. On va faire un petit jeu. Si vous voulez. OK. Vous voyez ce que j'ai là? Un casse-tête, un morceau de puzzle. Alors, je vous en donne chacun un. Puis, vous allez essayer de trouver qui fit avec vous. OK. Puis, si on a le temps, on va essayer de voir le portrait final de ce qu'il y a là-dessus. D'accord? Elle est maniaque, là. Alors, est-ce que vous aimeriez avoir le résultat? quand on met tous nos morceaux ensemble. Hein? Oui, c'est vrai. Alors, qu'est-ce que ça donne lorsque chaque personne amène sa partie? Qu'est-ce que ça donne au final? Un portrait de... C'est à l'amour qu'on a les uns pour les autres qu'on va être reconnus. Hein? Quand chacun participe, quand chacun fait sa part, le résultat, c'est qu'on voit Jésus. Il y a l'image de Jésus qui ressort. Comment on a réussi à faire en partie ce qu'on a fait? Qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce que ça prenait au départ? Travailler ensemble, des relations, hein? Si on communication, autre chose. Partager, oui, on essaie de chercher la volonté de jouer aussi, hein? Persévérance, c'est bon. Alors quand on se retrouve tout seul avec notre pièce, puis il n'y a pas personne qui clique, ben une tristesse. Hein? Pardon? Oui, la communion fraternelle ensemble. Il y en a qui ont commencé des conversations, hein, pendant le jeu. Est-ce que tous les morceaux t'appellent mal? Non. Hein, il y a un designer derrière ça. Le Seigneur nous a fait comme nous sommes et il nous a fait pour qu'on se connecte, qu'on se branche les uns dans les autres. Qu'on se complète les uns les autres. C'est pas beau, ça? Le Seigneur nous a fait comme nous sommes. Hein? On a chacun notre identité, personnalité, don, couleur, langue, etc. Mais le Seigneur, lui, a un plan. Il y a un designer derrière ça qui est en train de construire. Et on voit aussi qu'il y en a qui ont des leaders là-dedans. Hein? Il y en a qui ont pris le contrôle de la table en arrière. Puis... qui se sont impliqués, puis ont impliqué les autres, sont allés chercher les autres. Alors, il y a plein de choses qu'on peut apprendre du casse-tête. Mais le résultat, c'est qui compte, c'est est-ce que ma prière, c'est que je vous propose ce matin, c'est Seigneur, où est ma place dans cette église, dans l'Oasis? Elle est où ma place? Et passe à l'action. Hein? Qu'on reparte avec notre morceau, puis dire comment je peux aider? On a entendu notre Cheryl tantôt crier au secours presque, on a besoin toutes sortes de personnes pour faire un travail. Hein? David, il disait que le ministère, c'est pas une personne qui fait 100 choses, c'est 100 personnes qui en font une. Hein? Alors, on a un bon exemple le dimanche, il y a plein de monde qui sont au travail. Alors, un bon moment de vivre l'un, c'est la célébration le dimanche. Quand on est tout seul toute la semaine, on fait notre culte personnel, peut-être culte en famille. Mais quand arrive le dimanche, on met tous ces uns-là pour en former un grand un, avec la promesse que Jésus est au milieu de nous de façon spéciale. N'est-ce pas? Alors, la célébration, assister à la célébration, c'est une façon d'être un. Que Dieu est avec nous. Il y a une autre chose qu'on fait. Quelque chose de très pratique, qu'on pratique surtout le dimanche, qui démontre qu'on fait partie, qu'on participe à cette unité-là. Avez-vous une idée? Peut-être ça va vous surprendre. Isabelle, elle a l'offrande. L'offrande. C'est une façon de dire j'aime Dieu et j'aime mon Église. Ça fait 14 ans que je prêche, j'ai fait au moins 600 sermons, là. Puis c'est mon troisième, je pense, sur le sujet. Donc, je prêche sur les offrandes à tous les 300 messages. Vous êtes ici ce matin par hasard? Non. Pourquoi je ne l'ai pas fait? Parce que c'est une force de l'Église. On n'a pas besoin de le faire, pas besoin d'insister, pas besoin d'enseigner. Parce que l'Église est généreuse de nature, c'est dans son ADN. Et puis quand tu es pasteur, puis que ton salaire, c'est une grosse partie du budget. Puis, il y a des gens dans l'Église que tu sais qui n'ont pas les mêmes moyens, n'ont pas ces moyens-là. Ben, il y a une petite gêne, là. Une petite retenue, n'est-ce pas? Mais quand même, c'est un sujet très important. Jésus a parlé de l'argent, a parlé de ce thème-là très, 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 très souvent. Alors, puisque c'est mon dernier message, excusez, comme pasteur principal, ça ne veut pas dire que... j'ai demandé au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise, et puis c'est ça qui est venu. Alors, ce n'est pas de ma faute. Le niveau au Seigneur. Mais je me sens plus libre de le faire parce que je serai plus pasteur principal. Et le but, là, sincèrement, là, c'est pas soutirer de l'argent. C'est pas ça qui est mon but du tout. Mon but, c'est pas de mettre de la pression, de vous sentir coupable ou loin de là. Mon but, là, c'est de dire, waouh, quelle bénédiction de donner. Quelle bénédiction de donner. Que je sois pauvre, que je sois riche, donner, c'est une bénédiction qui est faite pour tout le monde, qui convient à tout le monde. C'est ça ce que j'ai à cœur de partager ce matin. C'est un privilège, c'est un bonheur de donner, que je sois riche ou pauvre. Il y a une première dimension à l'offrande, elle est verticale. J'aime Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire donner à l'offrande? On va prendre l'offrande tantôt. La première chose que ça veut dire, là, j'aime Dieu de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces. C'est un acte d'adoration, un acte de, je dis, ma fidélité à Dieu, mon appartenance à Dieu. On connaît le verset, hein? Là où est ton trésor, là est ton cœur. Je pense que c'est un principe très important. J'aime Dieu de tout mon cœur. J'aime Dieu de tout mon trésor. Il y a un exemple frappant, un exemple évident, c'est démontré dans, vous vous souvenez de la pauvre veuve dans Marc, assis vis-à-vis du trône, c'est là où on déposait les offrandes, Jésus regardait comment la foule y mettait de l'argent, et plusieurs riches mettaient beaucoup. Et souvent, lorsque quelqu'un de riche arrivait au temple, il y avait des trompettes qui sonnaient pour signaler à tout le monde que la personne a donné un gros montant d'argent. Alors, probablement que ça s'est produit. Mais il vint aussi une pauvre veuve et elle mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors, Jésus appela ses disciples et leur dit, « En vérité, je vous le dis, cette pauvre veuve a mis plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle possédait. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Le riche a donné peut-être sa dîme, 10 %. Elle a donné combien? 100 %. 100 %. Qu'est-ce qu'on apprend de ça? Si le Seigneur a mon cœur, hein, il y a tout le reste. Si le Seigneur est premier dans mon cœur, il a tout le reste. Si le cœur est là, le pourcentage est là aussi. Son offrande, premièrement, c'était un acte de foi. Un acte de foi. Elle mettait tout ce qu'elle avait pour dîner, pour souper, pour toute la semaine. Pourquoi qu'elle faisait ça? Un acte d'adoration, un acte de foi. Dieu est mon Dieu, puis il va s'occuper de moi. Dieu va pourvoir. Une preuve, une démonstration qu'elle aimait Dieu de tout son cœur. C'était le premier commandement de Dieu. Quel est le premier commandement de Dieu? Tu aimeras le Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces. On pourrait rajouter de tout ton portefeuille. Hein? Elle aimait Dieu plus que tout. Alors, mon offrande, lorsqu'on donne, là, on dit quelque chose. C'est un acte de foi, une déclaration de foi, un geste d'adoration. Autrefois, il y a 40 ans à peu près, j'ai travaillé pour des ingénieurs dans un bureau d'ingénieurs. Et puis, au break, je m'étais fait un papier avec mon budget. Et puis là, j'ai un copain de travail qui passe à côté. Il regarde mon budget, puis il voit offrande à l'église. Il voit le montant, les cheveux, ils ont dressé sa tête. On avait deux enfants à ce moment-là, deux jeunes enfants. Il a dit, quoi? Il dit, tu donnes tout ça à ton église, t'es fou, tu sais. Puis il était très expressif, là, dans le bureau. Fait que moi, je connaissais. J'ai dit, Pierre, j'ai dit, toi, là, tu sors les fins de semaine, là? Ouais. J'ai dit, combien tu donnes? Hein? Combien ça te coûte? Toutes tes sorties la fin de semaine, là? Il y a dans les bars, dans les clubs. Dans les... Ouais, il dit, je donne tout. Tout ce que j'ai. Ben, j'ai dit, chacun son Dieu. Hein? Chacun son Dieu. Hein? Lorsque je donne, je suis en train de faire une déclaration de dire qui est mon Dieu. C'est qui est le premier dans ma vie. De qui je dépends dans ma vie. Du salaire que j'ai. C'est ça qui va me faire vivre. La dame, là, la pauvre dame, elle a dit, moi c'est Dieu qui me fait vivre. Puis je vais lui donner tout ce que j'ai. Puis j'ai confiance. Il va prendre soin de moi, parce que je l'aime et il m'aime. Est-ce que c'est bon de donner la dîme? Dans cet esprit-là, oui. Il y a un chrétien qui est en Russie, qui était persécuté, il est en prison. Et puis, il était affamé, il avait le minimum vital. Tout ce qu'ils avaient pour manger, c'était une soupe. Une soupe dégueulasse, hein? Ça se dit en français, dégueulasse. Oui. Pas bonne, là. Infecte. Une soupe infecte. Puis, de temps en temps, il recevait un morceau de pain. Et il y en a quelques-uns qui étaient chrétiens qui ont décidé qu'une fois sur 10, ils allaient donner leur morceau de pain à quelqu'un qui en avait encore plus besoin. Est-ce que c'est bon de donner? Est-ce qu'il était content de le faire? Très heureux, il était béni. Il était béni de le faire. C'est un bonheur de donner. Et on ne devrait pas se priver de ce bonheur-là. C'est une bénédiction de donner. Et on ne devrait pas se priver de ça. Sans parler de toutes les promesses. Toutes les promesses. Celui qui donne, hein, à l'un de ses petits, il va se recevoir au centuple. Toutes les bénédictions, je vais donner une feuille dans le bulletin, là. Si vous n'en avez pas, j'en ai d'autres. Un petit exercice que je vous propose de faire cette semaine. D'un côté, c'est pourquoi est-ce que je donne? Hein? Mon attitude. Cette feuille-là ici, là. Riche pour Dieu. Avec quelle attitude donner, d'un côté? Et de l'autre côté, vous avez les fruits, les effets que ça produit de donner au Seigneur. Alors ça, c'est pour votre conviction personnelle. Ce que je vous partage, c'est ma conviction à moi. Mais ça ne vaut pas grand-chose pour vous. Alors, c'est à chacun d'aller devant Dieu et d'examiner ce que Dieu dit, ce que Dieu veut, puis de répondre avec cœur à cette question-là. Alors, dans la loi, il y avait la dîme. Alors, la loi était bonne. C'était pour enseigner au peuple combien donner. Hein? On savait déjà pourquoi, c'était pour adorer Dieu, mais combien je dois donner. Alors, dans la loi, c'est écrit noir sur blanc, on devra consacrer au Seigneur un dixième, donc la dîme, des produits de la terre et des fruits des arbres. C'est la part qui lui est réservée, hein, qui appartient à l'Éternel, elle est consacrée, elle est mise à part à l'Éternel. Il y a partie de des revenus qui revenaient à l'Éternel. Et au verset 34, il dit, ce sont les commandements que l'Éternel donna à Moïse. Il n'y avait pas de police de la dîme pour aller voir combien chacun donnait. C'était la responsabilité, c'était la liberté de chacun de donner. Dieu a donné ça à son peuple. La loi, c'est quelque chose de bon. Ça nous montre comment faire, hein? Comment débuter. C'est un pédagogue qui prend un petit enfant et qui lui enseigne que c'est bon de se brosser les dents. Il ne le fera pas tout seul. Hein? Et papa et maman vont être obligés de le forcer peut-être des fois, parce que c'est encore un enfant. Mais c'est-tu bon de se brosser les dents? Il y a des bénédictions. Hein? Ça porte du fruit de se brosser les dents. Et c'est la même chose avec la loi. C'est un pédagogue pour nous enseigner comment donner, combien donner. Alors oui, c'est bon de donner la dîme dans cet esprit-là. Et je ne l'ai pas mis, mais dans Malachie, on voit qu'il y avait deux choses qui agissaient comme un thermomètre pour savoir si j'aime Dieu. Si le peuple était fidèle à Dieu, c'était le sabbat et la dîme, les offrandes. Dans Malachie, c'était comme le thermomètre qui indiquait à Dieu où le peuple était dans sa relation avec lui. Alors, pourquoi 10%? Pourquoi pas 3? Pourquoi pas 7? Pourquoi pas 15%? Parce que 10, ça a une valeur symbolique dans la Bible, comme les 10 doigts de la main. 11, c'est pas complet. Hein? 9, c'est pas complet. 11, c'est trop. 10, là, ça veut dire c'est complet, les 10 doigts de la main. C'est pour ça qu'il y a 10 commandements. Hein? C'est ça couvre toute la volonté de Dieu, si on peut dire en résumé, en 10. Les 10 plaies d'Égypte, c'est le comble de la punition que Dieu infligeait au peuple. Donc, le chiffre 10 a une valeur symbolique. La dîme, 10%, ça représente tout ce que j'ai. OK? C'est pas, je vais donner son 10% à Dieu, je vais garder le 90. Les bons comptes font les bons amis. Non. Qu'est-ce que ça veut dire, 10%? Qu'est-ce que ça veut dire? Ouais. Hein? C'est un geste symbolique. Je suis prêt à tout donner au Seigneur. Ça représente tout ce que je possède, ça le représente. Ça, je suis en train de dire tout ce que j'ai là. C'est pas parce que je l'ai gagné que je mérite. Non, c'est un cadeau de Dieu que je reçois. Et quand je donne la dîme, je suis en train de dire, Seigneur, merci. Merci. Je reconnais que c'est toi qui pourvois. Comme la veuve, elle reconnaissait que c'est Dieu qui pourvoyait tous ses besoins. Il fait juste donner ce qui est un symbole de ce qui représente tout ce que je possède et que je dois à Dieu. Hein? Alors, est-ce que c'est bon de donner la dîme dans cet esprit-là? C'est drôle parce que tous les textes du Nouveau Testament, c'est Jésus qui fait des reproches. Vous donnez la dîme de la menthe et du cumin, hein? Parce qu'il se servait de la dîme pour s'enorgueillir, s'élever au-dessus des autres, et d'une façon légaliste. Si vous me demandez à moi, est-ce qu'un chrétien doit donner sa dîme? Ma réponse est, combien de temps est-ce qu'un chrétien devrait prier par jour? Lire sa Bible. Méditer la parole. Combien de temps? Combien de fois par mois on devrait se réunir le dimanche? En moyenne, c'est une fois sur deux. Un petit groupe. Combien de fois? Combien d'heures par semaine je devrais investir dans un ministère, dans un service à l'Église? Et la réponse, c'est pas « il faut que ». Faudrait bien que je donne la dîme. Faudrait bien que j'aille à l'Église. Faudrait bien que je lise ma Bible. Ouh! Si c'est ça, là, si c'est ça, là, le cœur n'est pas là. Le cœur n'est plus là. C'est pas dans cet esprit-là qu'on donne la dîme. Hein? C'est « il faut que hein? » Il faut que je me prive de quelque chose si je ne le fais pas. Hein? Si je ne viens pas célébrer le dimanche, moi, il me manque quelque chose. Si je ne sers pas dans l'Église, il me manque quelque chose. Je me prive, si je ne suis pas capable de donner, ça me manque. Il me manque quelque chose. Voyez-vous? Ça vient du cœur. Ce que Jésus regarde, c'est le cœur des personnes. Alors ça, c'est la dimension, on pourrait dire, verticale. Il y a une dimension horizontale aussi à la dîme. C'est un geste d'amour envers Dieu et le deuxième commandement qui lui ressemble, envers mon prochain à côté. C'est un geste de générosité, un geste d'amour en face des besoins qui sont devant nous. Et la première église, c'est extraordinaire. Hein? Première église, là, ça part, remplie du Saint-Esprit. Ils avaient tout en commun, ils vendaient leurs biens, leurs possessions, ils en partageaient le produit entre tous selon le besoin de chacun. Bang! Il faut que... C'est-à-dire, il faut qu'on fasse ça. Non, aucune obligation. Aucune obligation. C'était spontané. Et un peu plus loin, dans Acte 4, nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Une grande grâce reposait sur eux tous, car il n'y avait parmi eux aucun indigent. On distribuait à chacun selon ce qu'il avait besoin. Ça, c'est une église naissante, qui est née avec cette générosité-là. C'était naturel, c'était spontané. Il devait répondre à un besoin qui était criant, qui était urgent, qui était extrême. Il y a beaucoup de personnes, des milliers de personnes qui s'étaient converties. Ils avaient tout perdu probablement à cause de leur foi. Ils étaient dans la rue. Il y en a qui avaient tout laissé pour suivre le Seigneur. Et là, on se ramassait avec des migrants spirituels, si on peut dire. Hein? Il y en avait des milliers qui avaient accepté le Seigneur, puis qui se retrouvaient dans le besoin. Et qu'est-ce que la petite église de Jérusalem a fait? Ils ont pris des moyens urgents, des moyens extrêmes pour répondre aux besoins. Mais le cœur était là. Le cœur était là. Dans les situations ailleurs, dans les situations normales, on a d'autres principes, hein? Dans 2 Corinthiens, on donne selon qu'on a résolu dans son cœur, selon notre conviction, avec joie. Pas agréable, par obligation, généreusement, volontairement, selon nos moyens. Dans la situation présente, notre superflu pourvoira aux besoins, une règle d'égalité. Et 1 Corinthiens 16, 2, que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. Alors, il y a un principe, là. Selon sa prospérité. Hein? J'ai beaucoup, je donne beaucoup. J'ai peu, je donne peu. C'est une autre façon de dire la règle du 10% est très bonne dans cette situation-là. C'est une autre façon d'exprimer la dîme. Alors, finalement, aussi, c'est une œuvre de Dieu, une œuvre de générosité on pourvoit aux besoins de tout le monde. Et finalement, c'est un Corinthiens 9, peut-être c'est le texte qui parle le plus de la dîme dans le Nouveau Testament. Paul dit que, vous le savez, ceux qui font le service sacré dans le temple vivent des revenus du temple. Ceux qui sont attachés aux offices de l'autel reçoivent leur part des sacrifices offerts sur l'autel. De même, le Seigneur a donné des instructions pour que ceux qui annoncent l'Évangile vivent de l'Évangile. Alors, les offrandes, la dîme, et les offrandes servaient au service du temple, à ceux qui, les Lévites, et l'entretien et le service dans le temple. Et Paul y applique ça maintenant à ceux qui travaillent dans l'Église. Ça, c'est le même principe de la dîme dans l'Ancien Testament qui est appliqué dans le Nouveau Testament. C'est ce qu'on a de plus proche dans le Nouveau Testament. Comme dans l'Ancien Testament, les offrandes pourvoyaient au service, au ministère. De la même façon, mon offrande, ce qu'on donne chaque dimanche, pourvoit au ministère. Comme j'ai dit tantôt, c'était difficile pour moi de parler de ça, de prêcher là-dessus. Mais maintenant que je suis à part, je peux le faire. Et il y en a d'autres qui vont bénéficier. Et je pense qu'il y a une promesse là-dedans. Une promesse. Ça se vaut pour chacun personnellement, mais je pense que ça s'applique à tous. Apporter à la maison du trésor toute la dîme afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Que l'Église puisse soutenir le ministère. Que l'Église puisse soutenir les ouvriers. Que l'Église puisse faire du bien. Que l'Église puisse former des ouvriers. Que l'Église puisse envoyer des missionnaires ailleurs prêcher l'Évangile. C'est là que ça part. Hein? Et vous verrez, il y a une promesse. Vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel. Seigneur, il dit, testez-moi pour voir. Hein? Testez-moi. Peut-être 10%, c'est énorme. Comment je vais arriver? On commence par 1. Hein? 1%, 2%, peu importe. Hein? Si ton cœur est là, Seigneur, je ne suis pas capable, mais je veux participer, je veux avoir cette bénédiction-là, moi. Et de fruits, vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas sur vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Que tu crois en Dieu? La veuve, là, elle croit en Dieu. Ces petits sous, là, je pense, moi, qui ont rapporté. Puis si ce n'est pas sur la terre ici, imaginez la récompense qu'elle a dans le ciel. Hein? On raconte cette histoire-là depuis des millénaires. Son petit 2 cents m'a porté du fruit. Et je pense qu'il va en porter encore aujourd'hui. Alors, peu importe ce qu'on donne, on le donne avec notre cœur. Et là où est notre cœur, là est notre portefeuille. Alors, je vous lance l'invitation cette semaine. Chacun, on va devant le Seigneur. Vous avez un exercice à faire, un petit papier à remplir. Allez devant le Seigneur et dites, Seigneur, j'ai à cœur, je veux participer. Je ne sais pas dans ta situation qu'est-ce que tu es capable de faire, mais fais-le de bon cœur. Et tu vas voir le plaisir, le bonheur que ça procure de donner. Hein? Un geste concret.